Les passions de Camille avec Camille Chai.
Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Camille Chai et aujourd'hui j'ai deux invités en or. Vous me direz, à chaque semaine ce sont des invités en or bien sûr, mais aujourd'hui j'ai l'immense privilège de recevoir Michel Forgette, qui, à l'âge de 50 ans, a été amputé de sa jambe gauche après un accident de moto. Mais vous allez voir, c'est fascinant d'en apprendre sur la réadaptation, sur la technologie dans le monde des prothèses et surtout sur la force du mental. Et je reçois aussi Mélanie Labelle, qui est la seule femme dans l'équipe nationale de rugby en fauteuil roulant. Elle va nous rappeler, entre autres, l'importance de célébrer toutes nos victoires. Et je vous préviens, vous serez charmé par la belle personne qu'elle est. Et c'est tout de suite à Les Passions de Camille. Alors, je reçois sans plus tarder ma première invitée, Michèle Forgette, qui a 50 ans. Elle est célibataire et elle habite à Boisbriand. Bonjour, Michèle.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je vais très bien.
C'est un plaisir. Oui, ben ça fait plaisir à entendre justement, puis de vous recevoir aussi parce que je sais pas si ceux qui nous écoutent, bon, vous ont déjà vu aux nouvelles ou il y a plusieurs articles sur vous, hein, sur internet entre autres, parce que vous avez vécu toute une histoire.
Oui, exactement. Donc à 50 ans, j'ai eu un grave accident de moto. C'était ma seule fois à vie. Que j'embarquais en moto. Et c'est un ami qui a voulu me changer les idées après une séparation difficile où j'avais une grosse peine d'amour, j'avais de la difficulté à m'en remettre. Mm-hmm. Comme j'avais travaillé dans un milieu d'hommes, c'est mes amis d'hommes qui me changeaient les idées.
Et c'était quel milieu pour savoir?
Je travaillais en service d'urgence au 911 à Laval. Mm-hmm. Comme réceptionniste d'appel d'urgence et répartitrice d'urgence pour le service d'incendie de police.
D'accord.
Et à ce moment-là, il y a 30 ans, il y avait peu de femmes. J'étais la deuxième. Oui. Donc, je me suis entourée d'amis d'amis d'hommes.
Magnifique.
Et ils sont restés de bons amis et qui ont pris soin de moi après ma séparation.
C'est une belle solidarité.
Ah, et très bonne, oui. Et cette journée-là, c'était une journée d'automne, il faisait une journée magnifique, comme une journée d'été, à peu près 28 degrés. Et dans ma région, c'était la période des pommes. Et mon ami retraité m'a suggéré de faire une journée moto pour pouvoir prendre l'air, le vent, sentir les pommes et tout ça. Donc, on est allé dans les petits rangs de campagne. Et la seule voiture qu'on a vue par un beau jeudi après-midi, où il n'y a plus de vacanciers, m'a évalué. Il nous a frappé à une intersection.
Aïe, aïe, aïe.
Alors, j'ai été éjectée, j'ai eu plusieurs blessures. On a tenté de sauver ma jambe gauche, ça n'a pas été possible. Mon épaule droite là, a dû être opérée. Mon genou droit, j'ai des hernies lombaires. Mm-hmm. J'ai pas été paralysée, par contre. J'ai été chanceuse pour ça. Mm-hmm. Mais c'en est suivi de plusieurs opérations et beaucoup de réadaptation.
Oui, puis on va en parler d'ailleurs, mais c'est ce qui fait que ben, tout de suite après cet accident, Vous avez été déclaré invalide et donc la retraite, c'est un peu imposé, non?
Exactement, exactement, oui. Il fallait qu'attendre que toutes les opérations soient faites. Donc, j'en ai eu cinq, okay. Parce que la sixième, c'est un choix. Cinq opérations importantes, la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, les croisés du genou droit, qui supportent mon corps et ma marche et mon équilibre, surtout parce qu'il me manque deux articulations de la jambe gauche. J'ai amputé transfémorale, c'est-à-dire en haut du genou. Donc, il me manque la cheville et le genou. Mm-hmm. Ce sont deux articulations importantes. Mm-hmm. Et l'épaule, ça prenait de la convalescence et non pas de la réadaptation au départ pour laisser la chance que ça prenne. Donc, j'ai été hospitalisée presque 4 mois dans un centre de personnes âgées non autonomes Alzheimer.
OK.
Et les autres opérations, j'ai été placée à ma demande parce que je ne voulais pas imposer ça à mes proches, mm-hmm. vu que j'habitais seule. Mm-hmm. J'ai été placée à différents endroits pour ma réadaptation.
Et justement, je veux dire, quand on parle de réadaptation et de convalescence, pour donner un peu une idée de ce que c'est d'être en convalescence, là, entre autres, vous me dites, dans le centre de personnes âgées qui sont non autonomes, Quel type d'aide ou de soutien vous aviez, par exemple, par rapport à votre hygiène, ou à juste pouvoir prendre des bains, ça ressemble à quoi?
J'ai connu ce que ça sera pour moi, disons, dans 30-35 ans, c'est-à-dire que j'étais même moins autonome de mon corps que la plupart des gens qui étaient en résidence là-bas, parce que c'était plus un problème de mémoire, mais j'avais besoin qu'on m'habille, qu'on me déshabille, qu'on me lave, qu'on me donne deux bains par semaine palantés et qu'on me coupe ma viande, qu'on me serve, qu'on me desserve, tout. J'étais complètement dépendante de tout le monde parce que comme on voulait pas que je tombe, on m'avait enlevé ma prothèse gauche de la jambe et mon bras droit était fixé à mon corps pendant 4 mois.
Oh,
et
wow,
comme je suis droitière en plus, j'étais dans une chambre parmi les autres résidents et je déjeunais, dînais et soupais avec eux. Puis c'est les préposés qui s'occupaient de moi autant qu'eux, sinon plus.
Mais Michel, ça demande une énorme acceptation et une résilience par la suite.
Je dois dire que cette fois de convalescence où on doit attendre et être inactif, ça, c'était le plus difficile pour moi. Moi, en réadaptation, c'était proactif. C'était se dépasser, c'était trouver jusqu'où on peut aller pour atteindre notre limite.
Mm-hmm.
Mais en convalescence, c'était l'hiver, puis c'était difficile de me sortir. Donc, on venait me visiter, mes amis, mes enfants, mais on me sortait peu parce que c'était la neige, la tempête,
c'était
le froid. C'était compliqué. Ouais.
Comment ont réagi vos proches, d'ailleurs?
À l'accident ou à cette réadaptation?
Je dirais, oui, à l'accident.
À l'accident, je vous dirais que j'ai pris de l'avance un peu dans le sens que au moment où j'ai été éjectée en attendant les soins de secours, il y a des témoins qui ont pas paniqué, mais qui ont été impressionnés de voir mes blessures. Donc, ils ont pas pensé que j'étais consciente et ils ont exprimé tout haut ce qu'ils voyaient, ce qui était assez difficile.
Mm-hmm.
Donc, à ce moment-là, j'ai compris que ma vie venait de changer, puis c'était lourd, ce serait gros et long. Et quand je suis arrivée à l'hôpital après ma première opération où on a mis des fixateurs pour tenter de rétablir mes fractures ouvertes, j'avais 10 fractures ouvertes, le talon n'était plus positionné au même endroit, j'avais perdu mon bottillon et tout ça, j'ai vu la réaction de mes enfants qui pleuraient, qui étaient en petite boule et tout ça, et là je me suis dit, là, tu dois faire quelque chose d'important parce que sinon il va y avoir trop de dommages collatéraux pour les gens que t'aimes. Déjà sont dépassés de pas pouvoir t'aider dans ta tristesse. Ça s'ajoute, puis ils semblent découragés, donc faut que tu fasses quelque chose. Et pour le compagnon de travail aussi qui était loin, qui était blessé, qui ont opéré, qui ont renvoyé chez lui, puis qui m'a pas vu pendant 5 mois, sachant qu'on me faisait de multiples opérations, dont une amputation.
C'est franchement pas rien, puis honnêtement, je veux dire, ça donne des frissons, hein, rien de moins que de vous entendre. Mais on dirait que il y a quelque chose dans... Je veux dire, vous êtes la personne qui a l'accident, mais déjà en voyant la réaction de vos proches, l'amour est tellement puissant que c'est vous-même qui vous mobilisez, on dirait, pour supporter les autres. Alors que c'est vous qui en avez besoin aussi.
Ces gens-là ont tellement été présents pour moi dans ma peine, même s'ils ne pouvaient pas faire grand-chose que de m'accompagner puis d'être patient, et puis d'être préoccupé, d'être inquiet, d'être triste, que là, je me suis dit, c'est assez pour tout le monde. Là, il faut qu'on fasse quelque chose. Ta vie d'avant, la jambe est coupée, la vie d'avant, c'est coupé. Si on passe à autre chose, puis avant de mourir, toi, tu vas avoir vécu 2 vies complètement différentes, ce qui est assez rare pour une seule personne.
Oui.
C'est quand même positif.
Ben,
de pouvoir
complètement
dire, j'ai vécu 2 vies dans ma seule vie, puis j'aurais dû mourir. On m'a dit que c'était j'aurais pu me casser le cou, traumatisme crânien grave, quadriplégique, tétraplégique. Et c'est physique ce qui m'est arrivé. C'était réparable. C'est sûr que j'ai pas la même mobilité qu'avant, mais je vous dirais que ma condition est quand même très bonne pour toutes les blessures que j'ai. Je suis quand même polytraumatisée.
C'est incroyable. Là, j'ai d'autres frissons, mais c'est aussi de l'admiration et c'est impressionnant.
Je pense qu'il y a un peu d'égoïsme dans ça, parce que ces gens-là étaient quand même très importants pour moi.
Mm-hmm.
Et puis, je me disais, si je me laisse aller, Déjà, j'étais rendue loin, là. J'avais perdu 40 livres en moins de 2 mois à ma séparation. Je me disais, là, c'est ta chance ou jamais de focusser sur autre chose.
Oui, puis...
T'accrocher à quelque chose, à un défi, puis montrer aux gens qui t'aiment que là, c'est assez, puis on va faire quelque chose avec ça. Fait que c'est l'amour de ces gens-là, mais c'est aussi le fait que si j'étais restée dans ma peine, j'aurais été seule dans mon condo, en fauteuil roulant, regarder de la télévision. Ça a été ça, ma vie. Puis il me reste quand même 35 ans à vivre. Là,
mais bien
peut-être.
Sûr. Mais bien sûr. Mais ce qui prouve aussi, quand vous dites d'avoir des objectifs et de foncer, de regarder vers l'avant, c'est que même pendant toute cette convalescence, les opérations, on vous avait offert un billet pour aller voir un spectacle. Et malgré votre état, vous n'êtes pas laissé faire.
Exactement. Donc, j'ai eu 50 ans en avril précédent l'accident. Et c'est sûr que là, j'étais triste que mon conjoint soit pas là pour mes 50 ans, mais en même temps, tous mes amis étaient là. Et un de mes couples d'amis m'a offert un billet pour aller voir François Bellefeuille, qui était à Laval à ce moment-là, spectacle. Mmh. Et c'était 3 jours après mon amputation. Et j'y tenais mordicus. C'était un cadeau important pour moi. Oui. J'avais confiance en eux. Mon ami Mario, avec qui je travaillais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans l'urgence, dans penser vite, dans trouver des solutions calmes, les deux, qui ont vécu beaucoup d'épreuves eux-mêmes. Donc, je me suis acharnée sur mon orthopédiste pour qu'il accepte que je sorte des soins intermédiaires. Et je l'ai eu à l'usure, je crois, parce qu'au début, il pensait que je m'amusais à lui demander ça.
Mais c'était pas sérieux.
Et finalement, ma belle-fille m'a acheté des vêtements parce qu'on avait coupé mes vêtements à l'urgence. Et eux sont venus me chercher. Ils m'ont emmené manger. Ils m'ont emmené à la salle de spectacle. Ma copine avait fait des téléphones pour modifier nos bancs pour qu'on puisse mettre un fauteuil roulant. Elle avait réussi à avoir ma médication forte qui, en principe, se donnait pas vraiment en externe à ce moment-là.
Ah, là, là.
Et on est allé au spectacle. Puis on a pris des photos de François Bellefeuille qui, lui, n'en revenait pas de voir mon bracelet d'hôpital, de voir mon fauteuil roulant de sacré-cœur.
La sonde aussi, si je me trompe pas.
Oui, la sonde. ça, c'était quand même assez drôle parce qu'il a fallu aller vider la sonde. Ils ont dû la changer parce que c'était une sonde à l'hôpital, mais là, il fallait qu'ils en mettent une pour... plus petite pour de transport. Et là, on a dû aller la changer après le restaurant avant le spectacle. Et ma copine n'était plus capable de remettre mon legging. Donc, mon copain a dû rentrer, venir nous aider. Il était dans tous ses états. Mais on en a ri. Puis c'était une soirée merveilleuse qui m'a fait beaucoup de bien.
Ah ben,
ça m'a beaucoup fatiguée, mais ça m'a fait beaucoup de bien.
J'imagine, ça s'entend, c'est incroyable quand vous dites que vous êtes bien entourée. Ben, franchement, on en a la preuve. Et ben, je propose qu'on fasse une petite pause musicale, mais on se retrouve très, 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 très vite après.
Parfait.
On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile, est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va. Et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense Dieu, sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile. Et si fragile. Et si fragile. Seule justice ici-bas. On est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile. Dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus, car la vie, car la vie.
C'était Luc de la Rochelière, on l'a reconnu avec sa belle chanson « Si fragile » et c'est un choix musical de Michel Forget. Michel, est-ce que c'est, comment vous interprétez cette chanson?
On a beau nous dire de prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on a, je crois que c'est quand même difficile de vraiment s'imaginer chaque mouvement, chaque parole, tout ce que ça implique, notre corps, comment il nous sert, puis comment il, en dedans de nous, tout ce qu'on a de précieux est si fragile. C'est comme ça que je l'interprète.
Ouais, ben, c'est une magnifique interprétation. C'est touchant, c'est enveloppant, mais en même temps, c'est aussi un message d'espoir.
Exactement. Oui, effectivement.
Et il y a une chose, je veux dire, vous êtes quand même la première personne à avoir bénéficié de l'ostéo-intégration. C'est quoi ça? Oui, parce que c'est quand même quelque chose.
Oui, c'est quelque chose de bien important dans ma vie.
Oui.
J'ai eu plusieurs prothèses, plusieurs emboîtures, c'est-à-dire la cuisse qui va jusqu'à la fesse, qui est compressé dans une emboîture pour nous permettre le mouvement avec la prothèse du bas, dans mon cas, qui est un genou électronique. Mais les amputés transfémoraux, habituellement, ont une mobilité plus ou moins limitée. Et moi, dans mon cas, je bougeais beaucoup. Je bougeais beaucoup, je marchais plus qu'à l'habitude. Et de toute façon, la chaleur, l'humidité faisait que mon moignon perdait un peu d'eau. Et la prothèse décollait. Et là, ça se mettait à faire des frottements et j'ai eu des brûlures, des ampoules et tout ça. Et comme je vis seule, ben je pouvais pas porter mon emboîture, donc pas ma prothèse, mais j'étais en fauteuil roulant puis j'étais confinée chez moi. Donc, la solution qu'on m'a proposée, c'est ma prothésiste qui m'en a parlé, qui était dans l'équipe, c'est un implant dans le fémur. C'est nouveau ici, mais ça vient de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en font aussi. Mais ici, l'équipe est allée là-bas apprendre la technique et tout ce qui va avec. Ça faisait plusieurs années qu'ils travaillaient sur ce projet-là. Et finalement, j'ai été la première à bénéficier de cet implant-là, payé par le service public. Je suis la première payée par le service public, certaine au Canada, peut-être en Amérique du Nord.
Oui.
Ça, je pourrais pas être convaincue, mais payée par le service public au Canada, je suis la première à en avoir bénéficié en septembre 2019.
Wow.
Et le processus a été long et c'est correct comme ça parce que c'est pas quelque chose qui est pour tous. Mais moi, ma condition était idéale pour ça. Et J'ai tellement de belle mobilité. Donc, ce qui arrive, c'est qu'ils mettent une tige en titane dans le fémur. Il faut savoir que notre os a de la moelle au milieu. Et ils font une insertion. Ils insèrent une tige serrée qui dépasse de la peau. Et le genou est directement connecté à la tige. Ce qui fait que je retrouve ma cuisse, ma fesse, ma sensation. Parce que c'est sûr que l'emboîture s'était compressée, donc j'étais engourdie. Et là, ma peau, il n'y avait plus de problème avec ma peau, engraisser, maigrir non plus. Et certains mouvements que je peux faire maintenant, que je ne pouvais pas faire, parce que quand je me penchais, l'emboîture allait jusqu'à l'aine, jusqu'à l'esquion, qui est l'os de la fesse. Donc, certains mouvements que je ne pouvais pas faire de côté, me pencher, lever ma jambe assez haute, plier pour pouvoir mettre moi-même mon soulier. Il fallait que j'habille ma prothèse, mon soulier, avant de mettre ma prothèse.
Je me permets de vous dire, Michel, que je suis tellement de tout cœur avec vous, parce que moi aussi, qui ai une prothèse exactement comme vous, c'est rare qu'entre nous, on se comprenne tellement quand on se raconte ces choses-là.
Je pense que vous savez ce que je veux dire.
Complètement. Exactement. Complètement. Et il y a peut-être certaines personnes qui nous écoutent aussi qui ont le même type d'amputation ou de prothèse. Mais je veux dire, j'ai envie de saluer la technologie parce que de savoir que vous retrouvez, je veux dire, la mobilité, c'est tellement important déjà pour n'importe qui. Mais
l'autonomie. Moi, je vis seule, puis je sais qu'il y a certaines choses qui sont inévitables, que j'ai besoin d'aide. Et c'est logique, il faut prendre conscience de la réalité aussi.
Oui.
Mais si je peux être à mon maximum d'autonomie, c'est ce que je veux atteindre.
Voilà.
Puis je suis en forme, pourquoi pas? J'ai vu des personnes de 80 quelques années réapprendre à marcher. À 50 ans, j'avais pas d'excuses.
Non, c'est ce qu'on doit se dire. On est un peu obligé de tirer cette conclusion-là.
Et voilà.
Puis vous conduisez votre propre voiture aussi.
Oui, ça, ma voiture, on ne m'a jamais vraiment enlevé mon permis de conduire parce que c'est la jambe gauche.
OK, oui.
La seule restriction que j'ai eue, c'était que je devais maintenant conduire automatique.
Oui.
Il n'était plus question d'avoir de véhicule à vitesse, finalement. Et je conduis avec ou sans prothèse. Mais c'est certain que sans prothèse, ça veut dire des béquilles, une hypodale juste sur une jambe. Dans certaines conditions, quand il pleut ou printemps, automne, quand ça dégèle,
non,
c'est plus à risque.
Non, on n'en veut pas.
Et puis on peut rien transporter quand on a des béquilles.
C'est vrai.
Donc, je conduis ma voiture, je suis autonome et ça, c'est indispensable pour moi. J'ai été quand même 9-10 mois à pas pouvoir conduire à cause de mes hospitalisations.
Oui.
Mais c'est sûr qu'on a choisi un véhicule. Mon fils avait un concessionnaire à ce moment-là. On a choisi un véhicule pour ma condition. Donc, plus haut, pour mon dos qui avait des hernies. Puis aussi pour pouvoir avoir l'espace pour mettre le fauteuil roulant à l'arrière. Les périodes où j'avais besoin d'être en fauteuil roulant. Donc,
ça demande énormément d'adaptation puis de créativité aussi.
De créativité. Gérer les imprévus.
Oui.
C'est ce que je trouve qu'on m'a appris de plus important dans toutes les réadaptations. J'ai quand même eu 9 physiothérapeutes, plusieurs
professionnels de la santé.
Oui, ouais. Exactement. Plusieurs orthopédistes, plusieurs personnes en réadaptation. Puis chaque personne m'a apporté quand même un petit quelque chose que j'ai ajouté dans ma vie pour me rendre plus autonome.
Et je suis sûre que ce sont des choses bien précieuses et que c'est une liste qui s'agrandit aussi au fil du temps. Il nous reste quelques minutes, Michel. Il faut absolument qu'on parle de vos passions parce que la liste est longue, justement.
J'ai fait du parachute 2 fois. Je faisais 2 fois par semaine de l'aquaforme, du pilates en privé pour renforcer ma jambe gauche puisque j'ai retrouvé ma cuisse et mes abdominaux pour l'équilibre et pour aider mes hernies lombaires. Mais ma passion, c'est l'équitation. J'en faisais jeune.
Okay.
Et quand j'ai eu ma vie d'adulte, naturellement, j'ai eu d'autres préoccupations. Mais quand j'ai eu terminé toutes mes réadaptations, mon ami d'enfance m'a dit: écoute, tu vis seule et tout ça, il fallait qu'on me trouve quelque chose pour que je garde mes acquis. C'était difficile, je ne peux pas sauter, courir, marcher trop longtemps sur des terrains inégaux. Donc, on a trouvé une écurie régulière, parce qu'il faut savoir que pour des adultes, les écuries adaptées, il n'y en a pas beaucoup, surtout pas des handicaps physique. Et j'ai trouvé une écurie de haute performance. Et la propriétaire a décidé de prendre comme défi de me reprendre. Puis wow. On réessaie. J'ai monté avec l'ancienne prothèse où je chantais pas du tout ma cuisse gauche. J'ai monté pas de prothèse quand j'avais des problèmes. Et là, maintenant, avec mon ostéo-intégration, je peux me servir de ma jambe gauche. Je peux mettre du poids dessus.
Que c'est beau.
Donc, j'en suis rendue à faire des petits sauts.
Ouais, bravo! C'est génial!
Ouais, c'est extraordinaire. Et j'ai loué un cheval. Le cheval que je montais toujours, je l'ai loué. Et là, j'y vais 6 fois par semaine parce qu'il faut comprendre que l'entretien aussi, il faut se pencher. C'est quand même de la terre battue dans la neige intérieure. C'est Sénégal et tout ça. Les journées que je monte pas, je le marche. Lui, il a son rythme, mais moi, j'ai le mien. C'est une bête extraordinaire qui m'a comprise.
Et là, je pense que c'est un point sensible, mais un point très important. Le lien avec le cheval. Qu'est-ce que ce cheval ou les chevaux vous apportent comme bienfait?
Mentalement, premièrement.
Oui.
Se dépasser aussi. Puis, c'est des chevaux, il faut dire que c'est un cheval d'expérience qu'elle m'a donné. Donc, je peux, si je peux me permettre ce terme-là, focusser sur l'apprentissage, puisque le cheval... c'est déjà de base qu'est-ce qu'il y a à faire comme travail.
Oui.
Je fais de l'expérience. Et je vous donne un exemple. Habituellement, on embarque et on débarque de cheval sur le côté gauche.
Mm-hmm.
Et moi, j'embarque à l'envers et je débarque à l'endroit.
Ah.
Et la période où j'ai eu une infiltration d'eau, c'est quelqu'un d'autre qui l'a monté. Et la propriétaire disait, il va absolument aller de l'autre côté. Mais il était habitué
que c'est beau.
À
que c'est beau.
Quand je m'occupe de lui, il ne bouge pas, il ne me débalance pas. Les quelques fois où je suis tombée, j'ai quand même l'équipement de sécurité parce qu'on m'a beaucoup, beaucoup aidé à ce niveau-là pour la prévention. Quand il me sentait perdre l'équilibre, il s'arrêtait, il se penchait le cou, il me déposait presque à terre.
C'est magnifique à entendre. On a déjà plus de temps, mais merci infiniment, Michel, de nous avoir partagé ce magnifique et riche vécu, ces belles images. Et terminer en parlant des chevaux, des animaux, on ne pouvait pas rêver mieux.
J'espère que ça va inspirer quelqu'un d'autre.
Je suis sûre que oui. Au plaisir,
merci
Michel.
À vous.
Merci.
Bye-bye.
Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Mélanie Labelle. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Et oui, Camille Chaille, ici présente et toujours avec vous pour la prochaine demi-heure. Et j'accueille ma deuxième invitée qui est Mélanie Labelle. Elle est la seule femme dans l'équipe nationale de rugby en fauteuil roulant. C'est quand même incroyable et impressionnant. Bienvenue Mélanie.
Salut, bienvenue, ça va bien?
Très bien, merci. Et toi?
oui, ça va. J'ai comme l'impression d'être annoncée comme un super-héros. Là.
on peut dire un peu de oui, un peu de non, sans... parce que ça peut être un sujet qui est un débat encore, hein, de ne pas nécessairement voir les personnes handicapées comme étant des super-héros. Mais en même temps, oui, on peut se donner une part de ça quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Tant que c'est moi le super-héros, je suis d'accord avec toi.
Pas mal! J'adore! Mélanie, tu as 35 ans, tu habites à Saint-Hubert. Est-ce que tu peux me parler? Donc, c'est sûr qu'on va parler de rugby ensemble, mais j'aimerais bien pour commencer que tu me parles un peu de ton histoire et de ton handicap.
J'ai 35 ans, j'habite Saint-Hubert, puis... En mars 2016, j'ai subi une blessure à la moelle épinière qui est au niveau de C6. Donc, ça me donne accès à mes bras partiellement, mes pectoraux partiellement aussi, mes dorsaux. Fait que tout se coupe, en fait, on dirait au niveau des aisselles, disons. J'ai pas mes mains, puis c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai des limitations fonctionnelles assez sévères. Mais c'est ça, depuis mars 2016, c'était comme un réapprentissage de la vie, mm-hmm, avec cette nouvelle condition-là. Puis c'est un parcours assez... il y a des hauts, il y a des bas. Oui. On essaie de trouver l'équilibre là-dedans, puis voilà.
Et tu dis toi-même, bon, sachant que ça fait 5 ans que tu es devenue tétraplégique, tu dis être une au niveau d'une adolescente blessée, au niveau, ouais, de ton expérience de vie en tant que personne handicapée.
Oui, ben c'est ça. Dans le fond, au début, j'avais des objectifs. Quand je suis tombée, j'avais 30 ans. Puis je m'étais dit, il faut que je regagne un niveau d'indépendance de quelqu'un qui a 30 ans. Puis là, je me disais, il faut que je fasse ça en 1 an. Puis là, tu sais, c'est clairement pas arrivé. Puis après ça, je me suis juste dit, écoute, je vais le vivre. Tu sais, je vais prendre le chemin qu'il faut pour regagner un niveau d'indépendance qui m'est acceptable pour moi. Puis c'est juste toujours continuer à me donner des défis pour grandir. Mm-hmm. Puis là, c'est ça, dans le fond, dans la dernière année, j'ai eu mon permis de conduire. Puis là, je me suis dit, ça y est, je suis adolescente.
Ah ouais, bien. C'est ça, comme quand on passe le permis à l'âge adolescent, c'est la même chose.
Ça y est. Non, mais je parle en niveau de... C'est toujours en niveau de quête d'indépendance. Là, c'est, oui, pas...
Et justement, parce qu'on parle du corps physique, des capacités, ça prouve à quel point, hein, souvent, on se rend compte qu'on a beau se fixer des objectifs, tu nous parles de ton 1 an, on se rend compte que finalement, on ne peut pas toujours contrôler ces éléments quand on parle d'accident, de chute, de handicap ou de nouvelle vie. C'est une notion à intégrer, ça.
Oui, puis je pense que c'est un processus qui est comme totalement... c'est un processus très personnel à chacun. Mm-hmm. Je pense que la gestion du deuil ou du trauma, c'est toutes des phases qui passent. Des fois, je peux regarder les pages du livre et me dire, OK, tu sais, j'ai passé à travers telle étape, c'est super. Mais il reste toujours à régler. C'est un deuil qui continue, qui peut être positif comme négatif. C'est à nous de bien le voir. Tu sais, des fois, je parlais... au début, là, c'est énorme là, comme casseur de train de vie, si on veut. Mm-hmm. Je parlais à quelques personnes en disant comme j'avais un déni ou un désir de pas ouvrir certaines portes parce que c'était trop, puis j'en ouvrais juste une à la fois. Puis je pense que c'est important justement de classifier un peu notre deuil comme ça. Oui. Parce que c'est énorme. Là, c'est vraiment c'est des grosses phases qu'on doit d'abord accepter, trouver des nouvelles façons de faire, puis c'est des façons qui nous plaisent à nous, puis chacun, on a notre personnalité, là, donc ça va tout être des façons qui sont différentes de vivre.
Et oui.
Ouais.
Et quand tu as eu ton accident, eh bien, tu étais déjà en couple avant de le, oui, vivre. Tu es toujours, ouais, en couple aujourd'hui avec la même personne?
Oui, je suis toujours en couple. Mais encore là, c'était un gros... ça a été une grosse épreuve, puis on s'est déjà parlé quelques minutes, là, puis j'en discutais avec toi, mais c'est ça, c'est la lumière était beaucoup sur moi pendant cette épreuve-là. Tu sais, comment Mélanie va, comment ça se passe, tout ça, mais il faut pas oublier que toutes les gens qui sont autour de moi, c'est ma famille, mes proches, tous ces gens-là sont affectés par ce changement-là. Donc, c'est pas différent pour lui, puis ça a été une étape pour laquelle j'ai énormément de respect de la façon dans laquelle il passe à travers. Puis je pense pas que c'est facile pour les gens qui nous suivent, là, qui deviennent, si on veut, nos aidants, mais qui, mm-hmm, doivent aussi avoir un deuxième chapeau, soit aidant frère, aidant conjoint, aidant parent. Mm-hmm. C'est d'avoir cet équilibre-là entre les deux, puis de vivre lui-même, même je parle de ma famille, de vivre eux-mêmes ce choc-là, tu sais, de transformation. Là, il faut réapprendre un peu à... Il y a comme un débalancement, puis il faut le rebalancer là-dedans. Mais j'ai énormément de respect pour mon entourage, puis les gens qui m'ont accompagné là-dedans.
Bien, c'est beau de t'entendre et c'est incroyable, hein? C'est pas la première fois qu'on parle de ça dans l'émission Les Passions de Camille, mais nos proches et la reconnaissance, comme tu dis, le respect que tu as, ça n'a pas de prix, ça.
Non, vraiment. Il faut faire attention à leur énergie. Puis, ces gens-là, c'est des gens qui travaillent, qui font leur vie quotidienne.
Bien sûr.
En plus, ils ont cette charge-là supplémentaire. Donc, je pense qu'il faut apprendre à trouver cet équilibre-là, de garder des passions ou des petits temps de loisirs pour eux, sans que ça soit toujours un travail, surtout dans les premières années. Là, je te dirais, c'est plus que le temps passe, plus qu'on est capable de se dissocier un peu de cette routine-là. Mais au départ, là, en sortant, je t'avais déjà dit, j'ai passé un an au complet en réadaptation dans une institution. Puis tu sais, mon équipe, j'appelais ça une équipe, venait me voir tout le temps là-bas. Mon conjoint était là chaque jour. Tu sais, c'est... C'était une grosse étape, puis après ça, on est fatigué, mais le retour à la maison, c'est une plus grosse étape encore, puis on accumule cette fatigue-là, tu sais, fait que c'est une réorganisation qui est quand même intense, là.
Mm-hmm.
Ouais.
Si tu le voulais avec ton conjoint, est-ce que tu pourrais avoir un enfant malgré que tu sois tétraplégique?
Oui, bien en fait, le corps, la grossesse, tout ça, c'est quelque chose que... on contrôle pas avec le cerveau, c'est quelque chose qui est fait par réflexe.
Oui.
Donc oui, mon corps peut peut avoir des enfants. Puis non seulement ça, j'ai justement une amie, ça fait une amie tétraplégique avec qui on joue au rugby sur l'équipe du Québec, qui vient juste d'accoucher, puis elle a 40 ans. Là, fait que moi, j'ai été tellement émue de ça.
Oui.
Puis je l'ai pas reparlé depuis, mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai quelques exemples au Québec. Là, il y avait déjà une jeune femme tétraplégique qui a eu deux enfants, Solène Démétrie, je pense que on en a entendu parler dans le temps. Ça a été, il me semble, la première à Sainte-Justine. Puis sinon, j'ai comme un groupe de femmes sur les réseaux sociaux auxquelles des femmes tétraplégiques à qui je peux poser justement ces questions-là. Tu sais, des questions qui sont plus pour notre condition. Tu sais, comment se portent les hanches après? Tu sais, comment ça va, tout le regain de forme physique, tu sais, après un 9 mois à moins bouger, là. Fait que c'est les épaules, les bras, tu sais, comment ça se passe, c'est une autre réadaptation, en fait, à faire après, là. Fait que, tu sais, toutes ces petites questions-là, je pense que ça se pose, mais la question, si je pouvais avoir des enfants, oui. Oui, c'est sûr.
Magnifique. Donc, ça, c'est un des projets futurs, j'imagine.
Oui.
Je ne sais pas si je mets un peu de pression, mais je te le souhaite en tout cas.
Oui, je pense que mentalement, j'avais besoin d'acquérir un certain niveau d'indépendance parce que je pense que tu vas le reconnaître aussi. Là. Un enfant, c'est la priorité. Ça ne peut pas être un handicap, la priorité, c'est l'enfant. Donc, être organisé, je pense que c'est important.
Tu as... très, 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 très raison. Je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui se prépare et se planifie. Donc, bon, chaque chose en son temps. Mais dis-moi, parlant d'enfants, toi, tu as reçu quoi comme éducation dans ton enfance?
dans mon enfance?
Ouais. Qu'est-ce que tes parents t'ont transmis? Parce que, je veux dire, dans toute cette... j'ai envie de dire, cette sagesse que tu as en nous partageant ton histoire et le fait que tu es, je veux dire, sans aucun doute, une battante, une guerrière. Tu fonces, tu fais, je veux dire, tu es dans une équipe nationale de rugby. Ouais. Quelle est la part de tes parents dans tout ça?
Ah, ben je pense que c'est un tout, là. Je peux pas donner une cible en quelque part vraiment franche, mais je pense que un des cadeaux de mes parents, ça a été, je pense, la curiosité. Tu sais, apprendre un peu la nouvelle condition, ça a été, tu sais, pour moi, c'était quelque chose qui était passionnant de voir comment le corps pouvait fonctionner autrement.
Oui.
Puis de m'éduquer par rapport à cette nouvelle condition-là, c'était une priorité aussi, de comprendre qui je suis maintenant. Mais ça justement, cette curiosité-là vient des discussions que je peux avoir autour d'une table, mettons avec mon père ou avec ma mère qui nous mettait au défi, en fait, d'apprendre quand on était jeunes souvent. Là. C'est fait que j'avais jamais une réponse facile. Quand j'étudiais à la table avec mes parents, c'est mon père qui disait, je veux toujours avoir ce souvenir-là. Là, mettons, quelque chose que je comprenais pas en mathématiques ou je pense en l'électricité, les circuits électriques, quelque chose que lui, tu sais, comprend super bien. Puis je le sais, là, je le sais qu'il le sait. Mais là, je lui parle, puis je dis, je comprends pas, puis tu m'aides. Il est comme, ben, explique-moi là, comment tu veux que je te l'explique? Je comprends pas. Non, il fait juste me l'expliquer, Mélanie. plus, on continue de se dessiner comme ça, jusqu'à temps que je fasse, ben, écoute, je comprends probablement vraiment pas, je vais essayer d'expliquer. Là, j'explique tout croche, tu sais, c'est pas bien, c'est vraiment tout croche ce que je dis, puis je suis très au courant, puis il est comme, ah, non, je comprends pas comment tu me l'expliques, explique-moi l'autrement, tu sais, on continue ce débat-là jusqu'à temps qu'il fasse, ah, oh, ok, j'ai compris, mais par ce temps-là, moi aussi, j'ai compris.
Ah, que c'est beau!
Ouais.
En fait, il joue un peu l'innocent pour que ce soit toi qui travaille, puis en bout de ligne, ben, t'as fait tout le travail.
Il n'y avait pas de réponse facile. C'était un peu la même chose avec tout ce qui était technologique, puis tout ça. C'était un jeu à la maison, tout ça. T'sais, ma mère, la même chose. Ah, oh, je suis pas capable, tu veux le faire pour moi?
Et voilà.
C'est pas qu'il était pas capable, là, clairement. Il voulait juste qu'on apprenne à le faire de façon indépendante. Mais ça a continué, tu sais, en réadaptation. Mon équipe, là, mes parents, ma famille, m'ont pas lâché. Ils voulaient absolument que je réapprenne tout ça, puis que j'ai un niveau de vie qui soit acceptable pour moi, tu sais, pour la personne ou la fille qu'ils connaissent, puis qui a pas changé. Tu sais.
Ah ben oui, et ils avaient complètement raison, parce que c'est, comme tu le dis, ton autonomie et ton indépendance sont très importantes. Même que ça m'ouvre un petit peu le prochain sujet que je veux aborder avec toi, mais on va le faire après la pause musicale.
Ah, OK.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
well,
do it.
I never lost
nice.
One minute
and
sleep.
Rough.
And I will work.
But we're going to take the beginning of this song.
The thing
and do it
been.
Easy.
Big wheel keep
but then we're going to do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary,
the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling
on the river.
Listen to the story. Left a good job
down in the city.
Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep.
And I was worried
about the way that things might have been.
You know that
big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling.
Rolling.
We're rolling,
rolling,
rolling, yeah.
c'était Tina Turner et sa chanson Proud Mary. Elle nous a donné toute une bouffée d'énergie, cette Tina.
Oui, c'est important d'avoir cette bouffée d'énergie-là. Mais là, il faut s'imaginer, là... pour moi, écoute, je te laisse même pas me poser la question.
Non, vas-y, je te laisse aller.
Pour moi, cette chanson-là, c'est comme... tu sais, j'ai des moments qui sont longs, là, comme dans le fond, justement, prendre une douche, c'est excessivement long. Puis c'est important de m'amuser pendant ce temps-là, tu sais, pas juste le subir, là. Fait que, dans le fond, cette musique-là, je la mets pour me pomper, puis me donner le sourire au visage quand je fais ces tâches-là. Donc, justement, pour moi, c'est la douche, là. Fait que là, je me mets à danser quand même, là. Tu sais, il y a quelque chose qui me fait groover, là.
Oh, c'est beau d'entendre ça. Mais parce que tu le dis, pour toi, Mélanie, prendre ta douche, ben c'est du sport aussi.
Oh boy! <ouais. rire> Non, mais c'est sûr que c'est planifié dans ma petite bulle d'énergie. Là. J'ai pas trouvé de façon que ce soit moins long, puis j'ai pas trouvé de façon que ça soit moins énergivore. C'est sûr que ça me prend presque une demi-journée là, de faire ce circuit-là. Fait que... Ouais, pas le choix.
Mais tu vois, je veux dire, on en parle en riant, l'humour et la dédramatisation, c'est important. Ouais. Mais il y a aussi une notion qui est, c'est ta réalité et ça reste un énorme défi. Je sais pas si tu peux même nommer ça une difficulté, mais parce que pour moi, quand tu dis que de prendre ta douche, c'est énergivore, que ça te prend la moitié d'une journée, c'est quand même quelque chose à ne pas prendre à la légère.
Non, mais ça fait partie un peu du planning et cet apprentissage-là à trouver un peu notre sac d'énergie qu'on a dans notre journée, comment on dépense.
Oui.
Puis tu sais, de prendre ces décisions-là en fonction de ça pour se garder un peu de spontanéité, mais d'être capable aussi d'accomplir les tâches quotidiennes de façon réaliste. Puis je pense que on peut parler encore du grand terme là, de l'indépendance. Mm-hmm. Ça va avoir un visage différent pour chaque individu. Là. Il va y avoir des gens qui vont vouloir ou devoir avoir de l'aide pour acquérir cette indépendance-là. Puis il y en a d'autres qui vont être capables de le faire seuls, mais au dépend de leur énergie et de leur temps. Puis il y en a, comme moi un peu, qui s'assoient entre les deux, que sur les bonnes journées, je suis correcte seule. Donc, moins bonnes journées, j'ai besoin de plus d'aide. Fait que, ça a une image complètement différente pour chaque individu. Je pense pas qu'il y a une forme de handicap qui est pareille, jamais.
Et je veux dire, tu me le décrivais aussi avant de faire cette entrevue. Bon, le fait que ça te prenne beaucoup de temps, tu peux même arriver à vider la tank à eau chaude, comme on dit, tellement ça te prend du temps.
Ouais, j'ai beaucoup de cheveux, mettons.
Ah bon, mais c'est une question, là, hein, parce que je me dis, bon, les gens doivent se dire, sachant, Mélanie, que tu as les cheveux longs, est-ce que les gens te demandent, mais pourquoi tu te coupes pas les cheveux pour peut-être rendre ça un petit peu moins long et compliqué?
Ouais, c'est pas la longueur, c'est l'épaisseur.
Ah oui!
L'eau se rend pas dans le fond de la tête.
D'accord.
Puis là, c'est pas la dextérité non plus, fait que c'est plus long, mais je te dirais que j'ai même eu des gens qui ont essayé de les laver puis qui comprenaient pas à quel point il y en avait beaucoup. Là.
Mon Dieu.
C'était comme, ben, mon Dieu, t'es donc ben, tu sais, c'est, ouais, j'en ai beaucoup.
T'as une belle crinière.
Ouais, puis je te dirais qu'avoir les cheveux longs, c'est moins de gestion après. Tu sais, je peux les laisser lousses.
Voilà.
Je peux faire une couette, j'ai pas besoin de les coiffer, parce que s'ils étaient courts, j'ai plus de manipulation à faire dedans. Fait que c'est comme un peu ma forme à moi d'être hippie par rapport à mes cheveux.
Je comprends.
Tu sais, je les lave pas chaque jour non plus. C'est juste cette journée-là, ça va me prendre énormément de temps. Puis, ouais.
Puis quand aussi on parle de gestion d'énergie, la journée où tu choisis de prendre ta douche, ben tu me disais, c'est pas une journée où tu vas décider de sortir après ou de faire quelque chose. Tu dois prendre ce temps-là pour te reposer, pour être dans la meilleure des conditions le lendemain.
Oui, ben dans le fond, c'est juste que après avoir tout fini ces circuits-là, je suis déjà prête à faire une sieste. Je suis comme, oh my God, je suis épuisée. Ouais, fait que c'est pas une journée où qui va être pour moi très occupée. Ça peut pas être cette journée-là. Il faut que ça soit une journée qui est plus dans ma semaine, que j'ai planifié, qui est plus calme. Parce que sinon, j'aurai pas de fun dans les autres activités. T'sais, si je finis tout ce circuit-là, puis là, j'ai un ami devant moi, puis j'ai les yeux qui ferment parce que je fasse une sieste, c'est pas intéressant pour eux.
Non.
J'essaie là, le plus possible de planifier là-dedans.
Et parce que, je veux dire, tu t'entraînes aussi, là, non seulement, donc c'est incroyable, ton horaire doit être bien chargé, puis il faut pas t'oublier à travers tout ça.
Non, mais c'est un horaire qui est organisé. J'essaie le plus possible. Je pense que plus que je me... Puis tu sais, ça va en fonction des niveaux d'énergie. Là, je m'oblige jamais à dépasser ce niveau-là non plus. Oui. Mais ouais, c'est, je me fais un petit calendrier d'accomplissement, si on veut. Ah. C'est balancé avec une activité plus cérébrale, une activité plus physique, une activité plus sociale. Puis tu sais, j'essaie de balancer ça dans ma semaine pour que à la fin de la semaine, tu sais, j'ai le sentiment d'avoir avancé ou cheminé. Là. Mm-hmm. Mais c'est ça, je pense que le plus que j'ai un rythme discipliné, plus que je peux me permettre d'avoir de la spontanéité.
Oui, puis de profiter des choses. Puis ça m'amène à mon prochain sujet. Tu as une belle notion à nous partager aujourd'hui, et c'est celle de célébrer, accorder de l'importance à célébrer toutes nos victoires, autant les plus petites que les plus grandes.
Mmh, ouais, ouais. Ah, ça, c'est quand on... Je veux pas dire aux gens qu'on a prédiscuté là, mais on a prédiscuté un petit peu.
Oui, ça c'est dit. Voilà.
Mais c'est ça, dans le fond, quand on en avait parlé de ça, c'était par rapport à tout ce qui est dans les médias ou ce qu'on voit en ce moment par rapport à être une inspiration pour d'autres, tout ça. Mm-hmm. Puis c'est ça, dans le fond, le point que j'avais fait par rapport à ça, c'est que je pense que les réussites, surtout dans un cheminement puis une transformation comme ça, c'est important de les célébrer puis les voir puis de se dire mon Dieu, j'ai fait du chemin, tu sais. Mm. Fait que chaque gain, moi j'ai vraiment eu besoin de me donner cette tape-là dans le dos puis faire comme ouah, ok, j'ai réussi ça. Mm. Genre que ça soit la première fois que j'ai mis mes pantalons ou la première fois que j'ai fait une sortie en hôtel, la première fois que j'ai monté une courbe de trottoir, tu sais, toutes ces fois-là que j'ai fait comme yeah! C'est oh man, ça c'est le fun. Puis les portes que ces choses-là ouvrent aussi. Mais à la différence, c'est que je les ai célébrées une fois, puis deux fois, puis quand je les ai acquéries pour vrai, ces habiletés-là, mm-hmm. C'est pas que je les célèbre plus, mais j'ai plus de besoin, tu sais, de me faire applaudir à chaque fois.
Ah, voilà.
Fait dans le fond, quand on parlait du truc d'inspiration, c'est que là où ça peut devenir, où j'ai vu qu'il y avait un potentiel de « oups », c'est justement quand... À chaque fois que les gens me voient à l'extérieur, c'est tout ça qu'ils font, ben, tu sais, félicitations, puis je suis comme, dans 20 ans, dans quelques années, cette félicitation-là, je le sentirai plus nécessairement comme mm-hmm. si c'est vraiment, tu sais, quelque chose que je dois me féliciter de faire parce que je l'ai acquis. Puis quand je t'en parlais, c'était genre, les parents félicitent pas leurs enfants jusqu'à leurs 18 ans d'avoir fait leur premier pas.
Oui, c'est un très bon exemple.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est à un moment donné, comme, faut comme graduer de cette félicitation-là, mais à mon Dieu, si on a tous quelqu'un qui est inspirant pour nous, puis si je suis inspirant pour la personne, je vais le prendre. Tu sais, s'il y a vraiment quelque chose qui fait comme wow, ok, on a discuté, on a eu un échange, puis vraiment là, j'en pars grandi. Ben, je vais le prendre.
Oui.
Je vais jamais refuser ça. Puis je pense que je m'inspire de vraiment beaucoup de gens autour de moi, peu importe leur situation. Puis c'est important pour l'humain de s'inspirer d'autrui, puis de sortir de sa propre réalité, puis d'aller puiser ailleurs. Fait que je pense pas qu'on doit l'enlever aux gens. C'est juste d'avoir ce petit angle-là dans le fond de la pensée. Là.
Parce que, comme tu dis, ça part d'une bonne intention. Et si cette personne a cet élan, ben, comme tu dis, autant le partager, c'est donnant-donnant. Mélanie, je ne sais pas si tu vas me croire, mais c'est déjà la fin de l'entrevue.
Déjà?
Oui, ça passe trop vite, hein? Mais chère Mélanie Labelle, merci infiniment d'avoir passé ce temps avec nous. J'adore tout ce que tu nous as partagé, la notion du temps et de s'écouter, de s'organiser. C'est tombé dans de bonnes oreilles, je pense.
Mais merci à toi. En fait, c'est un plaisir d'avoir fait l'entrevue avec toi. Puis je te salue de loin.
Merci Mélanie. Et merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous invite toujours à réécouter les émissions sur le site www.canalm.vusezvoix.com. Je remercie toute mon équipe, Mathieu Tessier, Claire Guérin, Jean-Sébastien Laliberté, et surtout, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Bye bye!